Avant que de partager les textes qui nous ont confiés pour ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment où Jean-Baptiste vient nous demander de préparer tes sentiers, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes volontés. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager. Comme on partage le pain, entre nous, en famille, entre amis, et avec tous ceux que l'on rencontre et desquels on se fait parfois proche. Donne-nous de partager cette parole. Donne ton esprit que nous discernions à travers ces textes la vie que tu veux nous appeler à vivre, dans laquelle tu veux soutenir notre espérance. Amen. Et nous avons tout d'abord au livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 11, les 10 premiers versets. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Il respirera le respect de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera pas de sentence sur un oui-dire. Mais il gouvernera les pauvres avec équité. Il prononcera la justice avec droiture pour les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et puis dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, les versets 4 à 9. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Et enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, les premiers versets. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la conversion. Ne prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous, fortifie-nous dans ta vérité. Amen.
Thank you.
vengeance de vipère. J'adore l'expression de Jean-Baptiste, très légèrement décalée. En fait, Jean-Baptiste correspond à l'archétype du prophète, dont le rôle est d'accueillir la parole de Dieu pour la laisser passer à travers lui et la redonner au monde. Et si on le décrit de vêtu en poil de chameau avec une lanière de cuir comme ceinture, c'est peut-être pour reprendre un peu les textes anciens. Si on le décrit en train de manger des sauterelles et du miel sauvage, c'est en partie pour montrer qu'il appartient à l'une de ces sectes mystiques de l'époque que tout le monde connaît. Mais c'est peut-être surtout pour signaler que sa vie personnelle n'est pas d'une réelle priorité pour lui. Ce qui compte pour Jean-Baptiste, c'est avant tout sa vocation, ce à quoi il est appelé. Et le prophète est appelé à deux choses, à accueillir la parole de Dieu en lui, et dans le même temps, à accueillir le monde pour la lui partager. Alors le résultat, il est assez impressionnant. Ce sont des foules qui se font baptiser du baptême de purification qu'il propose et qui se pressent devant le Jourdain. Des mouvements de foule qui feraient rêver n'importe quelle église en quête de croissance. Mais vous noterez au passage ce double mouvement qui va nous intéresser. Jean-Baptiste accueille d'un côté la parole de son Dieu et il s'y rend totalement disponible. Et de l'autre côté, il accueille les foules et il va leur faire vivre une expérience spirituelle forte de purification. Disponibilité d'un côté, expérience spirituelle de l'autre. En fait, Jean-Baptiste fonctionne un peu comme un hub, comme un hall de gare qui va mettre en correspondance chaque voyageur avec le train qui est prévu pour lui. C'est un peu comme une zone de rencontre qui va mettre en contact la parole de Dieu qu'il a reçue avec des personnes qui sont en train de se mettre en mouvement dans leur vie. Gardez cette image en tête parce qu'on y reviendra après. On peut voir Jean-Baptiste comme un poumon, comme un espace intérieur qui va accueillir en même temps une parole et en même temps une personne et qui va leur permettre de se connecter dans une rencontre. Quand on parle d'accueil dans nos églises ou d'évangélisation, normalement, on devrait parler de ça et de ça uniquement, de cette expérience fondamentale de rencontre spirituelle décrite, par exemple, à propos de Jean-Baptiste. L'accueil, c'est ça. Alors, la conséquence, on la connaît, avec ces foules qui se pressent. Mais il y a un certain nombre de responsables de communautés de l'époque qui ont vu que ça marchait. Et ils se sont dit, sans doute, pourquoi ne pas y aller nous aussi au Jourdain ? Finalement, ce baptême de Jean-Baptiste, c'est une purification, c'est donc une protection supplémentaire en plus de celle qui nous est donnée par le respect de la loi. Donc ça peut être utile. Toujours la même chose, hein. Ceinture et bretelles pour la vie éternelle. Ça veut dire que pour eux, la qualité de leur vie personnelle ou religieuse vaut plus que la spiritualité ou le sens de la parole. Et c'est exactement l'opposé de Jean-Baptiste, pour qui l'accueil de la parole est plus important que les éléments sociaux ou religieux de l'existence. Et là, il y a un conflit absolu et inévitable, et donc engeance de vipère. Convertissez-vous. Dans la réaction de Jean-Baptiste, ce mot de conversion, il est important. Il est central même pour l'évangile de Matthieu. Il ne s'agit pas de repentir. Il ne s'agit pas de purification, comme on l'a parfois traduit. Ce n'est pas une question de reconnaître ses fautes ou sa bassesse, ou de se promettre intérieurement à soi-même une vie qui serait à l'avenir plus conforme à l'Évangile. La conversion, on approche de l'hiver, ceux qui vont faire du ski savent exactement ce que c'est se retourner à 180 degrés. On est arrivé au bout de la piste et devant il y a soit un sapin, soit un mur, c'est impossible d'aller plus loin. Et pour repartir, il faut changer sa route à 180 degrés. Inverser notre manière même de penser Dieu, de penser la spiritualité, de penser le monde. Je vous donne un exemple en reprenant ce qu'on disait à propos de l'accueil. On disait, il faut voir Jean-Baptiste, ou toute autre personne d'ailleurs, comme un espace de disponibilité qui accueille d'un côté la parole et de l'autre des gens qui viennent et qui offre la possibilité d'une connexion, d'une rencontre entre les deux. Une église qui accueille, ce n'est donc pas une église qui détient la vérité, ou qui essaye d'aller chercher de plus en plus de gens possibles en organisant des actions. Ce n'est pas une église qui proclame l'évangile à tous les vents en essayant de convertir le monde extérieur. C'est une église qui, à 180 degrés de ça, se rend disponible, recherche encore et toujours à être un espace de disponibilité à la rencontre, à la fois avec la parole et avec la personne qui est là. L'accueil, c'est la disponibilité de chacun dans l'Église. Pour bien se rendre compte que ce n'est pas une idée creuse ou un slogan, je vais vous faire faire un petit exercice. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard, j'en suis convaincu. Certains d'entre vous sont en recherche, d'autres viennent parce qu'ils se sentent bien ici, ou qu'ils ont envie de prier, de méditer, ou de vivre quelque chose ensemble. Prenez chacun un instant, un court instant, juste le temps que je boive. Un court instant, chacun pour soi. Et essayez de vous souvenir de la première fois que vous avez ressenti qu'il y avait une pertinence pour vous à propos de Dieu. Quel était le premier événement qui vous a fait vous rendre compte de Dieu ? Ou de l'amour de Dieu, ou de la foi, appelez-le comme vous voulez. C'était à quelle occasion, cette toute première fois ? je suis sûr que pour la grande majorité d'entre vous, c'était un moniteur ou une monitrice d'école biblique qui vous a dit un mot qui vous concernait personnellement. Que c'était une réflexion partagée avec un ami. Que c'était une sensation d'harmonie dans une chorale. Que c'était une discussion avec un de vos parents. Que c'est une remarque de quelqu'un qui vous a touché. C'était une expérience particulière ou personnelle en regardant un paysage ou seul pendant une marche. Dans la très très grande majorité des cas, ce premier moment de conscience avec Dieu, il est dû uniquement à deux choses possibles. Une illumination intérieure de l'ordre de la parole qui s'invite dans votre vie, qui y fait irruption. Ou bien, il y a une autre personne à ce moment-là. Et ça se passe, du coup, dans une rencontre. Pour ce qui est de l'illumination intérieure, on ne peut rien en dire ici, si ce n'est la vivre quand elle se présente. Mais dans les autres cas, il s'agit de rencontre et d'accueil. C'est la rencontre qui fait l'accueil, qui fait la pertinence de la parole. Une rencontre entre une personne disponible et une autre personne qui est en train de cheminer dans sa vie ou qui est un peu arrêtée à ce moment-là. C'est cette rencontre qui fait l'accueil et même qui fait l'Église. Souvenez-vous, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église, elle naît là. Elle est présente là. Et elle est constituée par cette rencontre. Ce que Jean-Baptiste avait déjà parfaitement compris et que les responsables religieux de l'époque ignoraient encore, apparemment, c'est que l'essentiel n'est pas la qualité de la foi. L'essentiel n'est pas dans la perfection de ses actes au regard de la loi. Mais l'essentiel se trouve dans la disponibilité que l'on a à se laisser rencontrer, soit par un texte biblique, par un événement, une illumination personnelle, soit par un visiteur, par un ami lors d'un dîner, par un ensemble vocal ou un organiste qui a fait sa prédication juste après les textes bibliques. Et son interprétation est déjà une prédication. Par un passant qu'on va croiser. C'est ça l'accueil en Église. C'est une rencontre de disponibilité, à l'opposé de toute stratégie. Alors vous me direz, c'est bien joli ce changement d'orientation à 180 degrés, mais dans toutes nos rencontres, elles sont humaines. Et les humains sont imparfaits, donc tout est entaché, biaisé par nos égos, par une volonté de quelque chose, par une mauvaise écoute ou par une gaffe qu'on peut faire à un moment donné, peut-être. Peut-être. Mais la prophétie de Jean-Baptiste vient nous rejoindre. Elle nous rappelle que Dieu est déjà en train de nettoyer son air, d'amasser son blé dans le grenier, de brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et ça, c'est une promesse. C'est-à-dire que Dieu est déjà à l'œuvre pour faire advenir ce qui est bon et pour refouler nos pailles, peut-être nos poutres, dans un feu qui ne s'éteint pas. Soyons sûrs que dans chaque rencontre vraie, il purifiera ce qui doit l'être. Quand la rencontre est forte, on sait très bien que l'essentiel a été vécu et que le reste a été jeté aux oubliettes, que nous avons en quelque sorte été purifiés à notre insu. Cette notion d'accueil par la disponibilité qui forme alors une rencontre, elle est aujourd'hui, je crois, centrale pour notre Église. Comme pour nous personnellement, parce qu'elle correspond tout à fait à Noël. Quand vous regardez la prophétie d'Ésaïe, ce loup qui habite avec l'agneau, la panthère avec le chevreau, on a bien un changement à 180 degrés de la compréhension des choses. L'autre n'est plus une proie, c'est un frère. Quand on regarde la vieille souche de Jessé qui porte un rejeton, on est bien dans le franchissement d'un impossible, à l'opposé de la logique, puisque la mort ne peut donner la vie. En tout cas, pas comme ça. Quand on regarde un enfant dans une crèche ou dans un berceau, nous, on est souvent plus tentés de regarder à quoi il ressemble et s'il ressemble surtout à son père. Et on est plus tenté de regarder ça que de lui demander de nous apporter le sens réel de nos vies. Et pourtant, c'est bien ce changement total de regard sur la petitesse et sur la vie qui fait notre capacité à vivre Noël et notre capacité à être disponible à une rencontre. L'apôtre Paul ne défend pas autre chose. Dans l'Épître aux Romains, quand il dit « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. » Si c'est bien la parole de Dieu qui nous a accueillis, il s'agit alors de nous accueillir les uns les autres, de se laisser accueillir les uns par les autres. D'une certaine manière, c'est le passant que je croise qui m'accueille moi et la parole que je porte dans sa vie et qui vient, lui, me rencontrer. Ce qui nous reste à nous, c'est à travailler, non pas notre perfection, mais notre disponibilité, cette capacité à accueillir ce qu'on n'imagine pas. Par exemple, un petit enfant dans une crèche qui change notre vie. Ce qu'il nous reste à faire, c'est à travailler pour devenir des hubs de rencontre, des espaces de disponibilité qui permettront la rencontre. Et en ces temps de l'Avent, cette préparation est d'autant plus essentielle. Il nous faudra une grande disponibilité pour accueillir celui qui vient et devenir une église de l'accueil. C'est notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés ce matin, comme ce fut celle de Jean-Baptiste, en son temps et dans son style à lui, vipère, pas vipère, c'est son style. Si c'est notre vocation, que ce soit donc aussi notre joie pour cette semaine qui vient. Amen.